on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. La question revient après chaque nouvelle vague d'attentats, souvent traitée dans l'urgence. Comment enseigner le fait religieux à l'école? Quelle place peuvent avoir Dieu, Allah, Yahvé et les autres divinités dans les programmes scolaires? Pour certains, les religions n'ont rien à faire dans les salles de classe, elles doivent rester dans la sphère privée. Pour d'autres, c'est le seul moyen d'apaiser les esprits, de renforcer le vivre ensemble. Mais certains enseignants sont mal à l'aise, réticents à investir le terrain des croyances. Alors, quel repère donner aux élèves dans des sociétés où la religion est une question de plus en plus présente? Et puis, est-ce là la mission de l'école? Avec nous, pour en parler, Sébastien Urbanski, maître de conférence à l'Université de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez tout juste un livre sur le sujet, l'enseignement du fait religieux, et vous êtes en duplex depuis le studio France Bleu de Nantes. Philippe Godin, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions de l'École pratique des hautes études, et vous êtes notamment en charge de la formation d'enseignants sur le fait religieux et puis sur la laïcité.
Tout à fait, c'est cela.
Et Marine Quenin, bonjour.
Bonjour.
Fondatrice de l'association Enquête, qui en fait anime des ateliers pour faire découvrir aux enfants du primaire les faits religieux et puis la laïcité aussi, par le jeu notamment. Nous serons aussi en ligne avec Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute à Dakar. Il nous parlera de l'enseignement islamique au Sénégal et puis dans les autres pays du Sahel. Et vous, les voisins, qu'en pensez-vous? Pour vous, quel enseignement des religions doit être proposé à l'école? L'école doit-elle aussi rester à la maison? Dites-nous tout. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et puis vous nous écrivez sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous lis justement quelques messages qui nous parviennent sur Facebook. Celui de Fataou à Parakou au Bénin. Il nous dit « Le Bénin est un pays laïque où cohabitent toutes les religions. Cela se voit à l'école où le fait religieux n'est pas abordé en classe à part quelques facettes qui sont traitées de manière superficielle dans les leçons d'histoire. » Alors Ibrahim n'est pas d'accord. Lui nous écrit de Khartoum au Soudan. Il nous dit « Bien évidemment, la religion est très importante. Elle nous transmet des valeurs humaines, des valeurs qui profitent à tous. Alors, il faut l'enseigner. Assabli est à Boaké, en Côte d'Ivoire. Il écrit, je le cite, « Si on décide d'enseigner le fait religieux à l'école, il faut choisir de quelle religion on va parler, car il y en a trop. Et j'en connais qui brandiront leurs épées pour que la leur soit imposée. Alors je dis non à l'enseignement des religions à l'école. Vous serez surpris de voir des monstres endoctrinés apparaître. » Et puis Gandhi, à Goma, en République démocratique du Congo, nous dit « Dans les pays laïcs, l'apprentissage de la religion doit rester l'affaire des églises, des mosquées, des synagogues, surtout pas celle des écoles. » Enfin, Bandouma, à N'Djamena, nous dit « Si aujourd'hui un chrétien n'arrive pas à se marier avec une musulmane au Tchad, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la religion l'un de l'autre. Il faudrait instaurer la religion comme une vraie matière à l'école pour ouvrir l'esprit des jeunes. »
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Il faut, c'est devenu indispensable, en tout cas c'est ce qu'on entend enseigner le fait religieux aux enfants dès l'école. C'est comme une rengaine politique que nous assène ministre après ministre. Sébastien Urbanski, qu'est-ce qu'on entend par fait religieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'histoire des religions?
Alors le fait religieux, effectivement, officiellement, c'est plutôt traiter le fait religieux à travers les disciplines scolaires existantes. Donc, par exemple, pour expliquer une époque donnée en histoire, on va mobiliser, on va parler du fait religieux, on va dire que eh bien, tels individus avaient telle croyance qui les ont conduits à faire telle ou telle action.
Voilà. C'est ce qui est fait aujourd'hui en France, officiellement.
Voilà, effectivement. C'est pour ça qu'il y a peut-être quelques malentendus sur cet enseignement. Puisque depuis, mettons, à peu près les années 50, voilà, dans les manuels scolaires, le fait religieux est déjà abordé. Donc quand politiquement on dit, parfois, par exemple Luc Ferry a dit j'ai introduit l'enseignement, le ministre, pardon, il faut que je présente.
Ancien ministre de l'éducation.
Voilà, ministre de l'éducation, français. Il a été français, voilà. Quand Luc Ferry dit cela, eh bien, ça peut créer des malentendus parce qu'on n'introduit rien. Puisque c'est déjà présent.
C'est déjà présent. Philippe Godin, de quand cet enseignement du fait religieux, alors dispatché dans différentes disciplines, date-t-il ?
Ah bah, évidemment qu'il date depuis toujours, et bien avant 1950. Si vous parlez de l'Égypte ancienne ou de la Grèce ancienne,
oui, on parle
comment
déjà
voulez-vous
religion.
Comprendre quoi que ce soit à l'Égypte ancienne ou à la Grèce ancienne si vous ne comprenez rien à la religion grecque ou à la religion égyptienne ? Donc, on le fait depuis toujours, certes. Simplement, peut-être faudrait-il comprendre que, par exemple, je ne sais pas, la France de la fin du 19e siècle et la France de 2016, ou même la France de 1985, ne se ressemblent pas tout à fait. Bref, il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouveaux publics à l'école, il y a de fait une nouvelle pluralité religieuse présente sur le sol français. Il faut toujours, pour comprendre les œuvres d'art, avoir quelques clés culturelles, et notamment du côté des faits religieux. Pour comprendre le passé, il faut toujours avoir ces clés. Et je dirais même que pour comprendre le présent, c'est encore plus vrai. Il n'y a pas une matinée qui se passe où l'on entende parler d'un différend entre les sunnites et les chiites. Faudrait-il que nos écoliers soient totalement ignorant de ces choses-là. Bref, on le fait depuis toujours, mais nous sommes dans une société où il y a des enjeux très spécifiques, très importants. L'école ne peut pas rester muette, paralysée, prise de stupeur et de stupidité vis-à-vis de ces enjeux très importants. Et c'est la raison pour laquelle Régis Debray a pu parler de passer d'une laïcité
dans un rapport
d'abstention à une laïcité, effectivement, d'intelligence, c'est-à-dire tout simplement se mettre au travail pour mieux comprendre ce phénomène avec les outils, tout simplement, de la connaissance, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, etc.
Alors lui-même, Régis Debray, défendait un nouvel enseignement du fait religieux. Vous avez été professeur de philosophie pendant une vingtaine d'années.
Mais
vous parliez du fait religieux pendant vos cours ?
Mais bien sûr, dans ma vie, j'ai beaucoup plus enseigné que je n'ai parlé de l'enseignement. Et donc, il est bien évident que quand vous êtes professeur de philosophie, vous devez aborder la question de la religion. Alors même si la philosophie, c'est sa caractéristique, va du côté du concept et essaye de réfléchir à ce que c'est que la religion, vous conviendrez avec moi que vous aurez plus de facilité à penser ce que c'est que la religion si vous avez quelques connaissances qui concernent les religions qui existent dans l'espace et dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle, tout naturellement, il faut étendre sa culture. Si vous regardez la liste des philosophes que les élèves peuvent présenter à l'oral, eh ben vous vous rendrez compte qu'il y a une proportion importante de ces philosophes qui sont très directement impliqués dans une tradition religieuse. Et pas que le christianisme. Vous pouvez faire travailler vos élèves sur Averroès ou Ibn Rushd, pour prendre son nom arabe. Vous pouvez travailler sur Berkeley, qui était un évêque. Vous pouvez travailler sur Kierkegaard, que sais-je encore. Et si vous travaillez sur Marx, sur Freud ou sur Nietzsche, comment voulez-vous comprendre ce qu'ils nous disent si vous ne comprenez rien aux religions ? C'est impossible.
Sébastien Urbanski, pourquoi, alors que finalement on enseigne déjà officiellement le fait religieux dans différentes disciplines, pourquoi la question revient aussi souvent dans le débat politique aujourd'hui ?
Dans le débat politique et dans le débat médiatique, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Godin sur ces objectifs-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des propositions comme ça, enseigner le fait religieux, qui viennent parfois de déclarations politiques, qui viennent des médias, etc., il y a une pluralité d'acteurs, en fait, qui se mobilisent. Et les acteurs ont des avis différents sur cet enseignement du fait religieux. Et là, il y a des objectifs un peu supplémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, selon certains, selon certaines personnalités, il faudrait, par exemple, réintégrer les options de sens et les réponses diverses qui apportent les cultures religieuses, hein, les réintégrer au sein de l'école. Donc là, c'est un objectif supplémentaire. Non, je pense que par rapport à ce qu'a dit Philippe Godin tout à l'heure, voilà, il y a quelque chose de plus. Et c'est ce quelque chose de plus qui fait débat, qui entraîne des réactions ensuite avec des personnes, soit dans les médias, soit dans l'université, ou alors des inspecteurs régionaux, par exemple, qui commencent à dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi faudrait-il, par exemple, voilà, réintégrer les options de sens et les réponses diverses qui apportent les cultures religieuses ?» D'autres se demandent pourquoi il est dit, parfois, je ne vais pas donner précisément les noms, je veux dire, parce qu'on est à la radio et j'ai pas envie de... Voilà, ça pourrait encombrer les auditeurs, mais après je peux les donner si vous
poser
la question. Voilà, ouais, c'est ce que, voilà, il faut rester synthétique. Voilà, certaines personnes disent qu'il faut ouvrir la laïcité, que la laïcité doit s'ouvrir aux religions, des choses de ce type-là.
Ce qu'on appelle la laïcité d'intégration, au service de l'intégration.
Alors oui, oui, ça peut être ça, on peut appeler ça comme ça. Maintenant, il y a aussi la laïcité d'apaisement. Hein, c'est un livre qui est sorti récemment, voilà, qui s'appelle comme ça, je crois. Pareil, Philippe Godin dit que Debray disait... laïcité, que Debray... En fait, Debray a parlé de la laïcité d'incompétence, hein, il me semble. Et justement, moi, je ne lui reproche pas ça, parce que ce n'est pas mon rôle, mais ce que je remarque, simplement, c'est que quand il a dit qu'il faut passer d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence, eh ben, ça a suscité des réactions aussi. Ce qui fait que, finalement, la question que je pose, et la question que je pose dans mon livre, c'est... s'il y a beaucoup d'objectifs, une pluralité d'objectifs, une indétermination des objectifs, les enseignants risquent de devenir vraiment réticents, là, pour le coup, risquent de se dire « moi, je ne fais pas ça parce que
aussi.
Je sens que ça... ça » voilà. Et il me semble que ce soit les enseignants, que ce soit des intellectuels, que ce soit certaines personnalités médiatiques, je ne sais pas.
Voilà, il faut réfléchir effectivement aux objectifs de cet enseignement religieux. Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Marine Quenin, vous avez donc cofondé l'association Enquête il y a 6 ans avec l'idée de familiariser les enfants du primaire, donc de 7 à 11 ans, avec le fait religieux, les faits religieux et la laïcité. Comment vous est venue cette idée-là, cette envie ?
Elle est née de questions de ma fille. J'ai 3 enfants et ma fille aînée était alors scolarisée en CP dans le public et est rentrée à plusieurs reprises de l'école avec des drôles de commentaires sur son interprétation du religieux dans la vie de tous les jours. Elle est revenue une fois en m'expliquant qu'elle était en vacances de la Poussin et qu'elle était super contente, ce qui n'a pas manqué de me faire sourire. Une autre fois en m'expliquant extrêmement inquiète que son copain Elias allait être malade parce qu'il avait mangé du porc par mégarde à la cantine. Qui m'a quand même un peu surpris.
Qu'est-ce que lui avait dit
Non, mais il lui avait rien dit. C'est-à-dire que s'il mangeait pas de porc, elle allait chercher ses explications. Ça devait être qu'il y avait une raison, et la raison, ça devait être que ça le rende malade. Et puis, une autre fois où elle était avec des copines à la maison, elle se dispute avec l'une d'entre elles et elle la traite de tête de ralouf. Et je regarde, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tête de cochon, pourquoi tu l'utilises comme une insulte ? Je l'ai entendu à la cour d'école. Donc, ça m'a amené à me pencher sur les programmes scolaires, convaincue. Vraiment, qu'elle allait aborder ces questions-là à l'école, parce qu'il s'agit d'apporter des connaissances pour comprendre le monde dans lequel on est, qu'on parle de cette compréhension du temps. Elle est en vacances à la Toussaint, à Noël, à Pâques, le jeudi de l'Ascension. Elle est en 2016. 2016, ça ne sort pas de nulle part. On a une semaine de 7 jours. Donc un certain nombre de choses dans le monde dans lequel elle évolue, un certain nombre de choses auxquelles elle est confrontée aussi dans sa vie de tous les jours, des pratiques sociales des uns et des autres, pour lesquelles, si on n'a pas de clé, on ne comprend pas pourquoi Elias ne mange pas de porc. On ne comprend pas pourquoi la mère de Fatoumata, elle ne mange pas une fois par an pendant un mois, pendant la journée. On ne comprend pas pourquoi Alice, elle s'est rendue dimanche dernier dans un endroit où on a mis de l'eau sur la tête d'un bébé. Donc des clés, parce qu'il me semble que l'éducation, c'est donner des clés aux enfants pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent. On ne peut pas s'investir dans le monde, décoder, pouvoir s'en saisir si on n'a pas les clés pour le comprendre. Donc des champs de compréhension. Et puis d'autre part, pour pouvoir faire vivre cette laïcité d'intelligence, c'est-à-dire que si on veut donner à comprendre la laïcité, on en parle beaucoup, on dit qu'il faut l'enseigner, blablabla, aujourd'hui, de plus en plus depuis 2 ans. Mais si on la laisse donné à comprendre uniquement comme un cadre juridique. Les enfants pourront comprendre si on passe du temps, mais en expliquant les textes de toi. Mais qu'est-ce, si on ne la donne pas à comprendre intimement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux dans leur vie de tous les jours? On est passé à côté quelque chose. Donc
il s'agit pas de, en écho
il
avec
s'agit pas de spiritualité comme parlait, comme disait Monsieur Rubensky. Il s'agit de donner des outils aux enfants pour comprendre ce qu'ils voient, s'en saisir et pouvoir ensuite se dire qu'on peut être assis à côté l'un de l'autre sans se taper dessus.
Alors justement, vous proposez des ateliers dans les écoles, mais en dehors du temps scolaire aux enfants de 7 à 11 ans. Vous proposez aussi des ateliers notamment dans des centres sociaux, également avec des enfants. Et vous incitez sur l'importance du jeu. Quel jeu, par exemple, vous proposez?
Alors, pourquoi le jeu? D'abord, on s'adresse aux enfants de fin de primaire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le jeu? Parce que ça nous semblait un outil adéquat pour cet âge-là, mais surtout parce que c'est un outil au service de quelque chose. On a une pédagogie du questionnement. On retient beaucoup plus de choses, pas quand on vous assoit pour vous faire un cours, mais quand vous êtes dans une pédagogie, vous allez chercher les connaissances, vous allez apprendre à vous poser des questions. Et le jeu, c'est un moyen de faire jouer les enfants, de les faire parler, on va les questionner sur ce qu'ils disent.
De faire émerger les préjugés aussi, peut-être.
À la fois, à leur âge, ils sont interpellés par plein de choses. Ils vont chercher des réponses. Donc, ils vont avoir des réponses naïves, des réponses à côté de la plaque, des réponses faites de préjugés, de stéréotypes. Et c'est quand on les énonce qu'on peut les questionner, les amener à aller un peu plus loin. Donc le jeu est qu'un outil pour pouvoir les laisser parler et pouvoir leur poser des questions après pour les amener à creuser ce qu'ils disent, préciser les mots, faire la différence entre juif et israélien, entre français et chrétien, entre arabe et musulman, savoir ce que veut dire l'athéisme, le polythéisme, le monothéisme, l'agnosticisme. On le fait comprendre très simplement aux enfants quand on prend le temps.
Donc vous leur posez des questions pour voir ce qu'ils savent.
Et puis on met en scène des jeux. Alors on n'a pas inventé des jeux complètement. On a utilisé des principes ludiques existants pour introduire nos sujets. Donc ça va être des jeux de tabous, ça va être des jeux de pendus, ça va être des jeux avec des puzzles, avec des cartes. Enfin, on s'est juste dit qu'à force de ne pas parler de ce sujet, c'est d'en faire un sujet tabou, qu'on laisse sous le tapis dans un coin, on en fait un sujet explosif. Faisons-en un sujet dont on peut parler calmement, dans le champ de la connaissance et pas de la croyance, parce qu'on se rend compte que le faire, ça permet d'apposer les choses. Et on n'en fait pas le sujet, on en fait un des sujets qu'on peut aborder, notamment à l'école.
Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous sommes en ligne avec un auditeur déjà, Bobby. Bonjour Bobby.
Bonjour madame.
Vous êtes à Kay, au Mali, et vous êtes, il me semble, enseignant en éducation civique et morale dans un collège privé. Alors, un collège privé confessionnel ou quel type de collège?
Non, pas un collège confessionnel, un collège classique.
Privé,
c'est le
tout
collège
simplement.
Privé, tout simplement, du professeur d'histoire Sekene Moody Sissoko, qui est décédé, paix à son âme.
Alors, que vous inspire le sujet du jour, hein, Bobby?
Bien, en tant qu'enseignant, moi je suis dans les classes où il y a les enfants de 12, 13 ou 14 ans. Et je pense aussi qu'il est très difficile. D'ailleurs, un enseignant qui n'aborde pas les questions religieuses avec les enfants, je pense qu'il ne joue pas. Il ne joue pas pleinement son rôle. Vous voyez, les cours d'éducation civique et morale, en général, c'est la matière qui parle à l'enfant de dignité, de probité, de liberté, de tolérance, hein, de laïcité. Donc l'enseignant modèle, à mes yeux, en développant tous ces thèmes devant les enfants, se voit dans l'obligation de parler religion. Regardez le Mali. Le Mali est un pays laïque. Donc le caractère laïque même de la République doit obliger les enseignants, dans les salles de classe, de s'arrêter souvent et d'ouvrir une page sur les religions. C'est à l'école, je pense que c'est à l'école que les enfants doivent connaître les religions monothéistes, connaître les différents prophètes.
Hein, et pour vous, il faudrait instituer un cours propre à la religion dans les écoles?
Même s'il n'y a pas officiellement dans le programme un cours, mais les titres que nous développons nous
obligent. Il faut en parler. Il faut parler des religions. C'est ça, hein. Merci, merci Bobby pour votre témoignage. Vous restez avec nous, Sébastien Rubensky, Philippe Godin, Marine Quenin. On s'écharpe partout au sujet de l'enseignement du fait religieux dans les écoles. Après le flash, dans 3 minutes, on envisagera des pistes de solutions. On verra ce que vous proposez chacun d'entre vous très concrètement. Et puis, on ira voir ailleurs aussi du côté notamment du Maroc où l'enseignement islamique est en passe d'être réformé. A tout de suite, dans 3 minutes, les voisins.
À l'occasion de la sortie de leur
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour s'interroger aujourd'hui sur un sujet sensible. Le fait religieux a-t-il sa place dans l'enceinte de l'école? Pourquoi est-ce si difficile d'aborder cette question de manière sereine en France et ailleurs? Pourquoi aussi attendre de l'école qu'elle apaise les esprits? N'en demande-t-on pas trop aux professeurs? On en parle, on en débat avec Philippe Godin, philosophe, directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions de l'École pratique des hautes études, Sébastien Urbanski, maître de conférence à l'Université de Nantes, Marine Quenin, fondatrice d'une association qui familiarise les enfants de 7 à 11 ans, notamment avec les différents faits religieux et puis la laïcité. Et nous sommes en ligne avec Sarah Doublier, la correspondante de RFI au Maroc. Le Maroc qui s'est lancé dans une vaste réforme de l'enseignement religieux dispensé dans les écoles. L'enseignement religieux, ou plutôt l'enseignement islamique, puisque c'est cette seule religion qu'on apprend pour l'instant dans les écoles jusqu'à aujourd'hui. En février dernier, le roi Mohamed VI a demandé que l'ensemble des programmes d'enseignement islamique soient revus. Objectif, accorder une plus grande importance aux valeurs de tolérance dans l'islam, qui est donc la religion d'État au Maroc. Bonjour Sarah.
Bonjour.
En quoi consiste alors cette réforme qui est présentée comme historique et qui est en train d'être adoptée au Maroc ?
Alors il faut déjà tout d'abord savoir que l'enseignement islamique est une matière à part entière et qu'elle est enseignée jusqu'à la terminale au Maroc. L'éducation islamique a pour but d'enseigner les bases des textes coraniques censés guider les comportements des élèves dans la vie de tous les jours. Cette réforme commence donc tout d'abord par un travail de forme. La matière est... On parle d'éducation islamique et on passe de l'éducation islamique à éducation religieuse. Alors c'est une appellation toute symbolique mais qui ouvre la voie à une sécularisation de l'enseignement religieux et voire même dans un futur lointain à l'ouverture à d'autres religions dans l'enseignement public. Alors ensuite le contenu des manuels scolaires utilisés dans l'école publique a été revu et expurgé de chapitres estimés trop extrémistes. Un exemple de sourate par exemple du Coran enseigné en troisième année de collège a été supprimé, le texte était considéré trop pro-jihad et relatait la conquête musulmane dans le monde. Ce texte appelait à tuer les non-musulmans, il a été remplacé par un autre chapitre considéré comme plus modéré. La place de la femme également n'était pas beaucoup très reluisante puisqu'elle était réduite à un rôle purement domestique. Des passages autorisant les châtiments corporels envers son épouse ont aussi été supprimés. Enfin, d'une manière générale, cette éducation islamique insistait sur la supériorité de la communauté musulmane dans le monde. Aujourd'hui, selon la réforme engagée, des notions universelles d'humanité et de droits de l'homme ont été introduites.
Donc en fait, on revient de loin, Sarah.
Oui, l'enseignement religieux au Maroc est particulièrement archaïque et de nombreuses voix se sont élevées au fil des années pour réclamer un dépoussiérage, voire une révision totale de cet enseignement pour l'adapter au monde moderne. L'introduction de l'enseignement islamique remonte aux années 80, quand le système éducatif s'est islamisé puis arabisé. Des professeurs coopérants français restés après l'indépendance ont été remplacés par des professeurs arabisants venus de Syrie, du Soudan ou d'Égypte, proches des frères musulmans. L'école bilingue enseignée au Maroc a fait place à une école exclusivement en arabe, mais aussi expurgeant toutes les sciences humaines de l'enseignement, la sociologie ou encore la philosophie. Cet élan d'arabisation et d'islamisation de l'enseignement achevé donc au début des années 90 est dû à une pression de l'époque des conservateurs du parti de l'Istiklal et a fait chuter le niveau de l'enseignement malgré des plans d'urgence et des gouvernements successifs, eh bien, près d'un Marocain sur deux est toujours analphabète de nos jours.
Et cette réforme de l'enseignement islamique qui est en train d'être adoptée au Maroc ne fait pas l'unanimité, Sarah ?
Oui, même si pour la plupart des défenseurs des libertés, eh bien c'est un pas en avant. C'est le cas pour les principales ONG, notamment celle du droit à l'éducation Bayt al-Hikma, qui avait salué le fait que l'on mette réellement en place des outils de dialogue et de rationalité dans le discours religieux. Mais certains militants estiment que cette réforme ne va pas assez loin et qu'il s'agit d'aménagement de façade, une sorte d'énième mesure marketing pour donner l'image d'un pays qui avance sur la voie progressiste malgré l'influence du conservatisme.
Et pourtant, et ça c'est étonnant, on le voit dans sa politique internationale, le Maroc veut s'ériger en modèle de tolérance religieuse.
Oui, un modèle qui va de part avec un contrôle plus assidu du fait religieux par l'État au Maroc depuis les attentats de Casablanca en 2003 qui avaient fait 45 morts. L'ensemble des institutions religieuses marocaines ont été réformées. Formation des imams, introduction de femmes prédicatrices dans les mosquées, et cela pour éviter notamment le mélange des genres aussi et l'instrumentalisation de la religion. Les imams au Maroc n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique. Alors un modèle religieux marocain où la figure centrale reste le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, ces mesures font recette à l'étranger puisqu'aujourd'hui des centaines d'imams du monde entier sont formés au Maroc, maliens, guinéens, ivoiriens, mais aussi des Français et des Belges pour sa pratique d'un islam qualifié du juste milieu. En ce qui concerne les jeunes marocains, les mesures concernant l'enseignement restent encore à démontrer sur le terrain car les nouveaux manuels sont encore en cours d'impression et ne sont toujours pas disponibles dans les écoles alors que la rentrée a eu lieu ce lundi.
Merci, merci Sarah Doublier, correspondante de RFI à Casablanca. Au Maroc, on voit alors évidemment la volonté politique du pays de donner une image positive avec un enseignement islamique plus ouvert. Mais plus généralement, Philippe Godin, quel rôle, à votre avis, peut jouer l'enseignement du fait religieux face aux extrémismes de part et d'autre ?
Alors, je crois qu'il faut éviter une sorte de simplisme un peu utopique, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il suffirait d'inventer une discipline spécifique et que, comme par enchantement, tout d'un coup, on habiterait dans le monde des bisounours. Moi, comme je dis toujours, la religion par le passé, aujourd'hui encore et demain encore, sera l'objet d'amour et ou de haine, de rejet ou d'adhésion. Mais les faits religieux, comme on dit, peuvent être aussi, effectivement, l'objet d'un travail de la connaissance. Conditions certainement pas suffisantes pour que tout s'arrange, mais conditions sans doute nécessaires dans certaines circonstances. On est tout à fait conscient du fait que dans le monde, comme dans notre pays, il y a une fracture sociale, économique et sociale. Il arrive malheureusement que cette fracture sociale puisse coïncider avec une fracture ethnique, culturelle et ou religieuse. Et là, les choses s'envenime. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de dire « faisons comme par le passé, comme si de rien n'était ». Il y a certainement des choses à faire. Par rapport au débat qui s'est engagé depuis le début de notre émission, il est bien évident qu'il y a des idéologies, des combats idéologiques et des phénomènes médiatiques. C'est inévitable, comme dans toute société ouverte et démocratique. Marine Quenin a parlé de ce qu'elle fait, de ce que les gens qui travaillent en enquête font dans le cadre de la vie associative. C'est donc une expression de la vitalité de la société civile et qui peut parfois prêter main forte à l'éducation nationale. C'est parfaitement légitime et une association a une liberté pédagogique sans doute plus grande que les institutions elles-mêmes. L'enseignement du fait religieux tel que l'IESR, Institut européen en sciences des religions, tout le monde peut aller sur le site web de l'IESR, tel qu'il essaye de le promouvoir, ça consiste tout simplement à essayer de se mettre au travail. Ce qui est forcément un peu long et un peu difficile, compte tenu de la complexité des enjeux. Je vous donne simplement un exemple. Pendant 7 ou 8 ans, j'ai mis en œuvre un module qui s'appelait « Laïcité et enseignement des faits religieux » pour ce qu'on appelle les PLC2 dans le jargon, c'est-à-dire professeurs des lycées et des collèges, qui venaient de passer le concours, qui commençaient à rencontrer leurs élèves. Et nous faisions comme ça, en deux fois, deux, trois jours de formation pendant l'année. Je peux vous assurer que dès l'instant qu'on le pratique, l'enseignement du fait religieux, il n'y a plus de débat idéologique. Quand vous avez quelqu'un d'informé qui parle de la naissance de l'islam compte tenu de l'avancée des recherches, quand quelqu'un vous parle du statut de l'image dans les monothéismes, quand quelqu'un vous parle de la sociologie contemporaine des religions dans la France,
c'est d'aujourd'hui, important de le mettre en relation.
Tout le monde est passionné et je peux vous assurer que plus personne ne se pose de graves questions sur les finalités de l'enseignement des faits religieux. Donc, autrement dit, et pour finir, les propositions de sens, ce n'est pas la vocation de l'enseignement des faits religieux que de répondre à ces questions-là. Mais il est bien évident que le rôle de l'école c'est de ne se refuser aucun champ de connaissances et avec le style qui est le sien, de donner des clés pour que chacun puisse faire son propre miel en toute liberté.
On reviendra sur les solutions qu'on envisage, que vous envisagez, notamment la formation des enseignants à ces questions-là. On est tout de suite en ligne avec Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute à Dakar. C'est l'observatoire des radicalismes et conflits religieux. Bonjour Bakary Samb.
Bonjour madame.
Alors vous êtes en ce moment à Casablanca au Maroc, décidément on parle beaucoup du Maroc, pour un colloque sur l'enseignement des faits religieux. Vous intervenez dans ce colloque sur la situation dans les pays du Sahel. Comment le fait religieux est enseigné au Sénégal?
Oui, pour ce qui concerne le Sénégal, on ne parlera même pas de faits religieux, mais comment la religion est-elle enseignée? Je pense que nos amis français doivent aussi prendre en compte la diversité des situations. En France, c'est vrai que la situation laïque, dans son entendement à la française, ne permet pas qu'on parle de l'enseignement religieux à l'école. On parle de l'enseignement des faits religieux depuis les différents plaidoyers qu'il y a eu. Mais dans nos pays, l'enseignement religieux est quelque chose de fondamental et quelque chose qui entre en compte dans l'élaboration des curricula, etc. Avant, c'était seulement les écoles coraniques ou les écoles religieuses de manière générale qui avaient été chargées de cet enseignement dans un cadre purement religieux, confessionnel. Mais depuis 2000 ans, par exemple au Sénégal, le président Abdoulaye Wade, nouvellement élu à l'époque, avait introduit l'enseignement religieux à l'école parce qu'il s'agissait d'une demande des parents et que pour lui aussi, cela relevait d'une stratégie de faire accepter, mieux accepter l'école, qu'on appelle toujours chez nous l'école française, alors que français en Wolof se dit Nasaran, c'est-à-dire le Nazaréen, le chrétien. Vous voyez donc toutes les complications que les États dans le Sahel ont eues pour faire accepter l'école, qu'on appelle l'école nouvelle, au sein des communautés, notamment religieuses. Donc cela fait que tout ceci est dû en fait que l'école chez nous a commencé, l'école en langue française, avec l'arrivée des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Donc on voit bien la méfiance d'une certaine élite musulmane au début, la méfiance de certains cercles religieux par rapport à cette école nouvelle. Mm-hmm. Et finalement, cette école-là fait office de république sénégalaise, avec un curriculum sénégalais par exemple. On peut parler aussi du Niger, du Mali, mais tout est que on a dans ces pays-là un problème que j'appelle très souvent une dualité des systèmes éducatifs.
Avec un enseignement public d'un côté, laïque, normalement, et un enseignement privé confessionnel.
Et un enseignement privé confessionnel, donc qui peut être chrétien, catholique, protestant, mais qui a été pendant très longtemps musulman, avec les écoles coraniques qui, je le rappelle, étaient bien présentes au Sénégal avant l'arrivée de l'école française aux alentours du 14e voire 15e siècle, voire beaucoup plus loin. Donc on est dans une situation où il y a un petit choc de modèle éducatif, mais qui tout au moins arrive à s'intégrer, à se concilier très généralement.
Merci Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute à Dakar. Merci de nous avoir un peu présenté la situation au Sénégal et puis dans d'autres pays du Sahel. Alors Marine Quenin, en France, on est quand même loin de ce contexte sénégalais. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, aujourd'hui, par rapport à l'enseignement du fait religieux? On a parlé peut-être de la formation des enseignants, de tous les enseignants, de toutes les disciplines qu'il fallait améliorer. Voilà, quelle piste vous proposez, vous qui connaissez le sujet?
Plusieurs choses. La première, d'articuler laïcité et fait religieux. Parce que d'expérience, je trouve que c'est extrêmement efficace. Ça fonctionne, que ça a un impact sur les enfants, sur à la fois sur leur connaissance et sur le climat de la vie scolaire. Deuxièmement, que à l'école soit fait ce qui est dans les programmes, On fait dans le cadre de notre association, on fait aussi de la recherche. Il y a une thèse en cours sur un état des lieux de l'enseignement de la laïcité des faits religieux en primaire, parce qu'il y avait très peu de données. Dans ce cadre-là, on a fait un sondage, donc du quanti, en décembre et janvier 2016, auprès de 345 enseignants du primaire. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne savent pas que c'est dans les programmes. Donc déjà, revenir sur le fait que c'est dans les programmes, que c'est des instructions ministérielles à mettre en œuvre, donc ça, c'est déjà faire connaître. Et troisièmement, c'est outiller et faire en sorte que les enseignants puissent le faire. Donc qu'ils aient les moyens en termes de formation, ce qu'évoquait Philippe Godin, qu'on les rassure, qu'on leur donne les moyens de le faire et qu'on leur donne des outils aussi. Parce que les injonctions à le faire, tant qu'on ne sait pas sur ces sujets qui inquiètent ou ne savent pas comment s'en saisir, il faut qu'ils puissent le faire, qu'on leur montre comment le faire pratiquement. Et puis après, je pense que l'école est centrale pour faire en sorte que ça fonctionne. Commencer tôt, parce que c'est quelque chose en primaire qui est extrêmement intéressant, parce que un sujet super pour faire du transdisciplinaire. Après, il y a plein d'endroits où on peut s'en saisir. Et on voit, nous, le nombre de structures avec lesquelles on travaille, qu'on parle de l'Union nationale des associations familiales, les scouts, la Fédération française de football, la Fédération nationale des centres sociaux.
Pas seulement l'école, en fait.
Éducation populaire, ça y est. Il faut faire en sorte que les éducateurs, alors c'est toujours très joli de dire « il faut », mais j'en suis intimement convaincue, faire en sorte de dire que, un, c'est important, deux, c'est faisable, et faire en sorte que ce soit mis en œuvre. Après, en cohérence avec les structures dans lesquelles c'est mis en œuvre. À l'école, c'est en cohérence avec les programmes. Dans les structures éducatives, c'est en cohérence avec les projets éducatifs des structures.
Donc, dans l'école, il faudrait renforcer ce qui existe déjà officiellement dans les programmes.
Faire en sorte que ça soit fait.
On fait reposer, Sébastien Urbanski, beaucoup d'attentes sur l'école. On s'inquiète notamment d'une méconnaissance aussi de l'islam dans la société française. Pourquoi attendre de l'école qu'elle apaise les esprits? Est-ce que c'est vraiment à l'école de faire connaître aux élèves leur religion ou celle des autres?
Oui. C'est-à-dire, je pense effectivement que dans une optique de connaissance, il faut, comme l'a dit Marine Quenin, déjà que les enseignants fassent effectivement, s'ils ne le font pas, effectivement, il faut qu'ils fassent ce qui est proposé dans les programmes. Et puis, effectivement, si certains enseignants peuvent être intéressés par l'approche du jeu proposé, là, ils peuvent évidemment l'acheter. Ils peuvent être intéressés par ce kit pédagogique qui peut effectivement leur permettre de faire des séances sur ça. Mais c'est la question ici, puisqu'on parle de vivre ensemble. Et puisqu'on parle également, Philippe Godin a parlé de fracture sociale, et puis aussi un auditeur, un intervenant au téléphone a parlé d'enseignement privé. Je voudrais dire quand même que ce kit pédagogique, il est intéressant, mais il ne faudrait pas que ça cache non plus des questions qui, à mon avis, sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que, justement, concernant la fracture sociale, on a en France... Parce qu'un auditeur aussi a dit qu'on a un modèle laïque en France.
Oui.
Ce n'est pas entièrement vrai quand même, parce que
la
région dans laquelle
laïcité.
J'habite, oui, il y a une spécificité française. Et puis, en fait, la France n'est pas si laïque que ça, puisque dans la région où j'habite, par exemple, donc c'est la Loire-Atlantique, du côté de Nantes, on a 40% à peu près d'enseignement privé. Et cet enseignement privé est un enseignement catholique. Ce qui fait que, j'ai une autre donnée, 70% des classes favorisées vont dans l'enseignement privé catholique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des situations où la mairie, l'éducation nationale essaye de donner une mixité sociale, de créer un véritable vivre ensemble, mais ne peut que le faire évidemment dans l'école publique. Puisque l'école privée échappe à cela. En France, ça marche de la façon suivante. Si on paye, si on a les moyens de payer quelques milliers par an pour avoir un enseignement privé, on peut échapper à, disons, l'enseignement public qui regroupe, du coup, plutôt les personnes défavorisées. Donc, tant qu'on n'aura pas un vivre ensemble réel, c'est-à-dire scolarisé ensemble, vivre ensemble, ça veut dire vraiment vivre ensemble, ce kit pédagogique peut très bien être utile localement pour certains enseignants, mais je crois que les questions plus fondamentales, c'est est-ce que c'est normal qu'il y ait des écoles privées, financées par l'État, soutenues par l'État, et en même temps payante, de sorte que seules les classes favorisées peuvent y aller. Ça mine le vivre ensemble.
Pour vous, en tout cas, l'école a d'autres démons à affronter, plutôt que de s'atteler à cette question de l'enseignement du fait religieux, des démons en matière d'égalité des chances, de décrochage scolaire. On arrive à la fin de cette discussion. Merci à vous, Philippe Godin, philosophe, directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions, auteur de « Vers une laïcité d'intelligence en France », point d'interrogation, aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Merci à vous, Marine Quenin, fondatrice d'une association pour faire découvrir le fait religieux, les faits religieux et la laïcité aux enfants. Merci à vous Sébastien Hubanski, auteur de l'enseignement du fait religieux qui vient de paraître aux éditions PUF. Dans quelques instants, je donne la parole à Sinatou Saka pour sa chronique Bourse d'études, puisque les voisins, vous êtes toujours nombreux à nous demander de l'aide pour trouver des bourses d'études. Sinatou vous donne ses conseils après La vie c'est bon de Vaudou Game. La vie c'est bon, 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 mais pas trop. Bonjour Sinatou Saka.
Bonjour Charlie.
Vous êtes journaliste et vous fouillez la toile pour informer les étudiants. Aujourd'hui, vous nous parlez des bourses de Master 2 en santé publique, des bourses qui sont proposées par la coopération au développement belge, des bourses pour en fait les professionnels de la santé qui sont originaires de pays en développement.
Tout à fait. Alors déjà, la coopération belge pour le développement veut renforcer donc les compétences des acteurs des pays en développement dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation et bien sûr de la santé. Le but, leur donner une spécialisation en plus qu'ils n'ont pas eu dans leur formation initiale. Avec cette bourse, ils peuvent donc étudier par exemple à l'Institut belge de médecine tropicale.
Qui est concerné par cette bourse en fait? Qui peut y prétendre?
Alors ce programme propose donc des bourses à 60 professionnels de la santé âgés de moins de 46 ans, tous ressortissants d'un pays en développement. Parmi les 18 pays prioritaires, donc l'Afrique du Sud, le Mali ou encore Madagascar, mais ce n'est pas une liste exclusive. Quelqu'un qui viendrait d'un pays qui n'a pas d'accord formel avec la Belgique peut aussi postuler, ce sont simplement des pays prioritaires.
Alors la cible pour cette bourse d'études, ce sont des médecins qui ont déjà une certaine expérience, 2 à 50 pratiques dans leur pays, qui savent traiter les maladies tropicales et qui en fait souhaitent se spécialiser, c'est ça?
Oui, et cette année, l'Institut recherche aussi d'autres profils, comme des sociologues, des économistes ou même des journalistes qui ont travaillé sur des sujets liés à la santé. J'ai parlé aux responsables de l'enseignement et il insiste vraiment sur le fait que vous devez avoir une ou plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la santé. Et attention, il faut que votre candidature soit cohérente avec vos études. Bref, si vous avez étudié le droit, par exemple, laissez tomber.
Quel est le montant de cette bourse?
Alors, environ 1250 euros par mois pendant un an. Elle comprend les frais de scolarité, une allocation mensuelle de subsistance et le logement.
Et quel conseil alors vous pouvez donner aux candidats potentiels à cette bourse, vous qui avez bien étudié le dossier pour eux?
D'abord, pensez à bien remplir le formulaire de candidature. C'est assez important car les candidats seront sélectionnés sur la qualité de leur dossier. Ce qui compte en premier lieu, c'est la pertinence des références données. Attention, ces personnes référentes seront contactées par la suite. C'est aussi le profil, évidemment, et votre projet professionnel. Pour vous donner une idée, il y avait 200 candidats l'année dernière pour donc 60 places.
Mais si vous n'avez pas... beaucoup
de candidats. Mais si vous n'avez pas eu de très bonnes notes pendant votre cursus universitaire, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas vraiment importantes. Ce qui peut peser dans la décision du jury, c'est aussi comment vous envisagez d'utiliser cette formation dans votre pays d'origine. J'ai interrogé Kevin Laure, une ancienne boursière donc, qui est aujourd'hui médecin-chef à Douala au Cameroun. Et pour elle, il faut bien préciser ce qu'on compte faire une fois rentré dans son pays. Montrer à quels besoins on veut répondre. Bref, prouver que l'on est bien conscient des réalités sur place.
Et j'imagine que, comme toujours, il faut écrire une lettre de motivation qui se distingue des autres, qui soit un peu originale.
Très originale et avec votre présentation, votre formation, vos défis... et aussi ce que vous pourrez apporter au programme et aux autres étudiants. Si vous êtes bilingue, français, anglais, précisez-le bien dans votre dossier, ça en plus. Le programme recherche des profils capables d'avoir des carrières internationales. Aujourd'hui, peu de femmes postulent. Et pourtant, le programme voudrait la parité totale. Donc si vous êtes une voisine, dites-vous qu'une attention particulière sera portée à votre dossier, même s'il n'est pas parfait.
On encourage donc les voisines à postuler. Alors une dernière question importante, quelle est la date limite si
Alors, janvier 2017 pour la prochaine promotion.
Il reste quelques mois.
Oui. Et les cours seront tous en anglais, mais si vous êtes francophone, vous pouvez être admis et suivre les cours. Il suffit simplement de savoir lire l'anglais.
Voilà. Merci pour cette chronique, Sinatou Saka, et bon courage à tous ceux qui voudraient postuler. Toutes les infos à retrouver sur le site rfi.fr, à la page 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe de l'émission, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Camille Néran. Merci aussi aux équipes techniques de France Bleu à Nantes. Lundi, 7 milliards de voisins, c'est Emmanuel Bastide qui reprendra le micro. Quand les villes se mettent au vert, un an après la COP21, la conférence sur le climat à Paris, quels défis restent encore à relever pour rendre les villes plus écologiques? Qu'en est-il dans les pays du Sud? Vous nous appelez les voisins au 33 1 84 22 71 71 pour partager vos interrogations et vos témoignages.